Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 9 octobre. Et là, on se regarde, Germain, puis on s'est en train de se demander, toi, as-tu tes pneus d'hiver?
Je les ai, mais ils sont pas posés encore.
Ouais, c'est la même chose pour moi.
Parce que je m'étais procuré 4 pneus neufs à l'automne dernier, et comme je roule très peu avec la Focus, ils sont encore plus que bons.
Tu les avais pris noirs, hein?
Oui, noirs.
OK,
voilà.
Parfait.
Avec des rainures.
Ah ouais, OK, parfait. Ben, on va parler de pneus aujourd'hui, évidemment, parce que c'est la saison, parce que...
On entend toutes sortes de choses aussi.
Il y a un vent de panique, on ne peut plus acheter de pneus, qu'est-ce qui se passe, les prix vont exploser. Alors, on va parler avec David Giguère, qui est vice-président marketing du groupe Touchette, un peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, écoute, une nouvelle qui me surprend, General Motors, qui va lancer l'Equinox et le Blazer en version électrique. C'est une façon de ressusciter deux modèles qui ne se vendent pas, ça?
Écoute, ne nous emballons pas trop rapidement. Est-ce que c'était une tactique pour faire monter artificiellement pendant quelques instants l'action de GM? J'en ai aucune idée, mais parce qu'à l'exception de la Bolt et de la Bolt EUV en ce moment, tous les véhicules électriques qu'on a lancés, c'était des véhicules haut de gamme. Même le Cadillac Lyriq, le Hummer, le Silverado électrique, ça va être des véhicules très dispendieux.
Ouais.
Et là, on, cette semaine, chez GM, on a voulu, entre guillemets, rassurer la population. Et on nous a annoncé qu'on allait produire un Chevrolet Equinox et Blazer. Peut-être que vous sentez le scepticisme dans ma voix. Le Blazer, ça passe toujours. L'Equinox, pour moi, c'était, entre guillemets, du bois mort pour l'entreprise. Je m'attendais plus à ce qu'il disparaisse carrément et qu'on arrive avec un autre produit. Mais bon, si c'est ce que le président de GM nous a annoncé, ça doit être vrai.
On peut s'attendre à ce que ce soit la prochaine génération
oui.
d'Equinox, parce que l'Equinox...
Puis je suis pas sûr que la plateforme actuelle pourrait recevoir les batteries
effectivement, mais tu vois, l'Equinox actuel qui devait avoir droit à une refonte légère l'année passée, finalement, c'est arrivé qu'en 2022, c'est un produit qui se vend déjà plus, que les concessionnaires GM ne veulent même plus promouvoir. On préfère encore vendre des terrains, qui est la même chose, mais chez GMC. Puis, c'est le véhicule le moins vendu de ce segment-là après le Jeep Compass.
Oui.
Donc, c'est vrai.
Mais si on arrive tôt avec une version électrique, ça pourrait être intéressant. Puis, on s'est même avancé avec un prix, parce qu'on nous a dit, pour le marché américain, bien entendu, autour de 30 000 $. Écoute, si on nous arrive avec un VUS compact électrique qui, au Canada, coûterait, entre 35 et 40 000 $, il y a un potentiel énorme.
Ce qui est quand même pas très logique dans la mesure où on vend un Bolt EUV à plus de 40 000 $
oui.
Mais j'ai bien hâte de voir tout ça. De toute façon, l'écart de prix entre un véhicule américain et un véhicule canadien, il est considérable. Quand on regarde le prix d'un nouveau véhicule lancé sur le marché américain versus le marché canadien, je comparais uniquement le prix du Mazda MX-30, on en reparlera un petit peu plus tard, mais du Mazda MX-30 US versus Canada, écoute, il y a 10 000 $ d'écart. Puis, il y a 10 000 $ d'écart pour un véhicule qui se vend 40 000. C'est extrêmement considérable. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que GM va faire avec tout ça. Mais en attendant, Equinox et Blazer, on n'en voit pas beaucoup.
Non, effectivement, effectivement.
Bon, on va parler justement de Mazda. Mazda qui a annoncé qu'on lancerait beaucoup de nouveautés électriques, hybrides et 5 nouveaux VUS, dont 3 pour le Canada dans les prochaines années.
Oui, et là, il va falloir être attentif parce que c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres mises ensemble.
Ben, mais d'abord, moi, oui. Je me permets de te dire que j'ai assisté au lancement du MX-30 oui. La semaine dernière. Et chez Mazda, on nous a annoncé que dans les prochaines années, il y aurait 5 nouveaux véhicules hybrides rechargeables qui seraient lancés, 5 nouveaux véhicules hybrides réguliers et 3 nouveaux véhicules 100% électriques d'ici 2025.
Ça, c'est comme, c'est pas demain, c'est après-demain. Là.
C'est très, très rapide. Est-ce que tous ces véhicules-là viendront sur le marché canadien ou américain à suivre? Parce que Mazda, moi, j'oserais dire que c'est déception après déception depuis quelques années. On est arrivé avec un diesel, ça n'a pas fonctionné. On nous a fait rêver avec la technologie SkyActiv X. Finalement, c'est jamais arrivé.
On a une Mazda 3 qui ne se vend plus.
Ben, en fait, ces produits-là sont très intéressants.
Oui, mais les acheteurs sont pas là.
Mais toutes les nouvelles technologies qu'on nous avait promis, ça fonctionne pas. Et là, on est arrivé avec un MX-30 qui est un super beau véhicule, mais que personne ne va acheter parce qu'on a 161 km d'autonomie alors que la compétition est à 400.
C'est beaucoup trop peu, là, en 2022. C'est gênant d'offrir ça. C'est gênant.
Ouais, exactement.
Bon, alors, parmi les nouveautés qui vont nous attendre chez Mazda, en novembre prochain, le CX-50 va s'ajouter à la gamme. Il va partager sa plateforme avec la Mazda 3 et le CX-30. Donc, on vient encore là sous-segmenter, sous-diviser le marché, finalement. Là. Donc, c'est des questions de nuances, mais parce qu'on entend conserver le CX-5. Donc, je sais pas.
Et le CX-50 serait un CX-5++?
C'est pas nécessairement tout défini encore pour le grand public, mais oui, c'est ça. Il va falloir suivre ça de près. Et parce que c'est ça, le CX-5 va rester. Mais est-ce que le CX-50 va être au CX... Est-ce que le CX-50 va être au CX-5, ce qu'est le CX-30 au CX-3? Oui, OK, voilà.
Ouais, bonne question. En fait, parce que le CX-3, oui. C'est un modèle d'ancienne génération que les Américains ne vendent même plus. Voilà. On l'a conservé ici au Canada pour avoir un prix, un véhicule d'entrée de gamme, mais bonne question.
Et ça, c'est la première étape. Ensuite, on va arriver avec une nouvelle plateforme. Et là, on va avoir le CX-90 à 3 rangées et le CX-70 à 2 rangées. Donc, j'entends bien qu'on est plus dans le format intermédiaire, mais entre un CX-5++ puis un CX-70 qui va être un intermédiaire à 2 rangées. Pardon, là, mais moi, je vois pas beaucoup de marge entre ces deux-là. Mais ce sera à suivre. T'sais, on n'a pas de photos, on n'a pas de détails mécaniques, on n'a rien de ça pour le moment. Mais chez Mazda, on est en train de brasser des affaires.
Et il y aura un CX-60 et un CX-80, mais qui ne sera pas destiné à notre marché.
Oui, voilà. Mais comme ça faisait déjà beaucoup de CX et beaucoup de chiffres, je me suis gardé une petite gêne.
Que j'ai une petite déception dans le fait que parmi toutes les annonces que Mazda a fait dans la dernière semaine et demie, il n'y a aucunement question d'une nouvelle génération de Mazda 6 propulsée comme on nous avait parlé il y a quelques années. Est-ce qu'on aurait abandonné cette idée-là? Pose même pas la question aux gens de Mazda. Ça répond plus aux questions, les gens de Mazda. Fait que...
et la MX-5 dans tout ça?
La MX-5, je pense qu'on... Ça, c'est quand même un produit qui, je pense, va demeurer sur le marché parce que c'est un peu l'image de la marque, en quelque part. Élimine la MX-5 du marché chez Mazda.
Oui, on perd beaucoup d'âme, là.
Parce que la Mazda 3, ce n'est plus un véhicule à volume. La Mazda 6 n'est plus. Le reste, ce sont des VUS. Ouais. Et on s'entend, c'est pas mal toute la même chose avec une variation sur un même thème.
Et le zoom-zoom, il est un peu moins là qu'il l'a déjà été.
Oui, exactement, hein? Exactement. Petit mot avant de passer aux essais de la semaine sur la Toyota Corolla Cross.
Oui, je sais que c'est un véhicule qui est très attendu par les Québécois. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions.
On aurait dû l'appeler la Cross Corolla. Honnêtement, là, ça aurait été moins pire.
Peut-être.
Comme la Cross Trek.
Oui, ah, c'est vrai que vu sous cet angle-là...
Et je te dirais que la Crosstrek, elle, c'est sa rivale la plus directe en plus.
Oui, j'ai l'impression. Alors, bref, cette semaine, on a appris le prix, finalement, de ce nouveau petit VUS. Et dans sa version d'entrée de gamme, donc à roue motrice avant, on est à 24 890 $. Et pour obtenir le rouage intégral, il faut ajouter simplement 1 400 $. Et on est à peine...
Automatique seulement?
Oui, effectivement. Donc, et comme prix d'entrée, ben, c'est à peine 1 000 $ de plus que le CHR. Alors, qui va acheter un CHR?
Personne.
Bon, mais déjà qu'ils en vendaient pas des tonnes. Là.
Mais on peut-tu dire que le Corolla Cross, j'ai de la misère avec le nom, je m'excuse, c'est la nouvelle Matrix?
Oui,
c'est
effectivement.
C'est carrément la nouvelle Toyota Matrix. Et on connaît le succès que la Matrix a eu au Québec, moins au Canada anglais et encore moins aux États-Unis, mais chez nous au Québec, la Matrix était une voiture hyper populaire et encore aujourd'hui très appréciée par les gens qui en ont, qui en possèdent toujours une. Alors, je pense que ce véhicule-là est voué à un très, très, très grand succès.
Et qu'est-ce qui va advenir de la Corolla à Hayon? Parce qu'elle va perdre un peu de son intérêt, à mon avis. Les gens qui veulent un Hayon, ben justement, là, ils vont avoir beaucoup de place. Et comme on retrouvait avec la Matrix, je sais qu'on n'est pas... Il y a un monde, là, entre la Corolla Hayon et le Corolla Cross, mais c'est un véhicule qui est beaucoup plus pratique. Là.
Tu vois, moi, mon feeling, c'est qu'on risque plus d'aller chercher, justement, des gens qui achetaient inutilement gros avec le RAV4.
Ouais.
Et les quelques...
Et c'est rendu cher aussi, là.
C'est ça. Et les quelques acheteurs de CHR. CHR, c'est sûr que ça va mourir ou à peu près. Mais moi, j'ai l'impression que les ventes de RAV4 vont stagner parce que la Corolla Cross va arriver sur le marché. On va aller chercher une nouvelle clientèle qui s'achète actuellement des Kia Seltos, des Hyundai Kona, des Honda HR-V. Je veux dire, tout le monde est dans ce secteur-là et Toyota n'a jamais été compétitif avec son CHR dans ce segment-là. Alors là, on a un produit sérieux, bien adapté au marché pour aller chercher une part de marché. Mais je pense qu'il y aura quand même ce qu'on appelle du cross-shopping, c'est-à-dire un petit peu de cannibalisation avec d'autres modèle de la marque Toyota, mais surtout du côté du RAV4, moi j'ai l'impression plus que du côté de la Corolla berline.
C'est possible. On va peut-être aller en chercher un peu partout.
Puis il y a quelques personnes qui vont peut-être choisir ça et qui auraient rêvé d'un Sion XB, mais j'ai bien dit quelques personnes.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Bon, les acheteurs de Sion XB, on s'entend qu'il n'y en a pas des masses, Germain. Mais il y a quand même des gens nostalgiques qui ont aimé ce véhicule-là.
Sans doute. Et si c'est votre cas, écrivez-nous.
Et c'était aussi un format très comparable à celui de la Matrix et comparable à celui du Corolla Cross. Et là, tu vas nous parler d'un véhicule, pour rester dans la même famille, Lexus NX, qui, lui, se vendait quand même très bien jusqu'à il y a quelques années, mais n'a jamais réussi à me convaincre. D'abord parce que j'ai toujours trouvé ça d'une laideur épouvantable. Et je le sais que c'est très subjectif, là, mais Dieu que c'est laid, ce véhicule-là. Et je peux pas dire que la nouvelle génération m'interpelle davantage.
Et je peux même pas t'obstiner, parce que oui, effectivement, c'est pas très beau. On a toujours l'éternel calandre.
Donne une feuille de papier à Goldorak, puis ça donne ça.
T'sais, on a toujours l'éternel calandre en forme de sablier. À l'arrière, on a des piliers, c'est très large. T'sais, c'est pas nécessairement
très
esthétique. Puis en plus, ben, ça nuit beaucoup à la visibilité. Là. Donc,
et à l'espace.
Oui, oui. Oui, donc on n'est pas gagnant.
Puis ça, on ne l'a pas vraiment amélioré.
Non. Pour ça, c'est identique. Mais bon...
Il y a une nouvelle génération, puis là,
nouvelle
c'est plus
génération,
sérieux.
Et là, on a mis toutes les chances de notre côté pour réussir chez Lexus, parce qu'on a 4 moteurs. C'est énorme. C'est une gamme qui est très, très étendue. On a le 4 cylindres, 2,5 litres atmosphérique. Bon, voilà, c'est dit. On a le 4 cylindres turbo-compressé, 2,4 litres, qui, moi, m'a pas enchanté plus qu'il faut. Franchement, c'est pas... tu sais, parce que 2,4 litres dans ce turbo, dans ce format-là de véhicule, quand on pense que les Allemands ont un 2 litres turbo, ben tu
tout
dis...
Le monde,
ben
Cuba,
oui, mais là, t'as Infinity. Un 2,4, tu dis, OK, ben on a une plus grosse cylindrée, mais franchement, le rendement est pas plus intéressant qu'il ne le faut. Et là, arrive les versions intéressantes. 2.5 hybride, comme on retrouve dans le RAV4. D'ailleurs, on a vraiment fait copier-coller avec le RAV4. Le succès du RAV4, on tente de le répéter avec le NX.
Ouais.
Donc, 2.5 hybride, très intéressant, et 2.5 hybride rechargeable, et je pense que ce sera la version la plus convoitée, pas nécessairement la plus vendue, parce que évidemment on risque d'en manquer, et chez Lexus on a refusé là, de nous dire combien on allait en avoir, mais on nous a dit quand même que ça allait être limité et qu'on allait réserver ça à la Colombie-Britannique et au Québec, parce que justement on allait pas en avoir tant que ça.
Est-ce que ce véhicule-là sera éligible au même crédit gouvernemental que le RAV4? Probablement pas.
Il aura seulement droit aux 8 000 $ du Québec parce qu'il est sous la barre des 60 000 $.
Donc, mais au-dessus des 45.
Mais au-dessus des 45, okay. On est à 59 900 et des poussières. Donc on a droit à ce 8 000 $. Donc évidemment, ça le rend très attrayant pour
donc, le consommateur. Donc ça va rabaisser son prix au niveau de l'hybride.
Ben oui et non, parce qu'il y a un 10 000 là, de différence entre l'hybride et l'hybride rechargeable.
Donc, et c'est la même technologie qu'on retrouve dans le RAV4.
Ah oui. Tout est pareil, tout est okay. Identique. Et on est à 61 km d'autonomie annoncée pour en mode tout électrique. Et dernière chose en terminant, on a retiré, et là, tiens-toi bien, Antoine, le pavé tactile. Donc, ce qui nous permettait de contrôler le système d'infodivertissement avec littéralement une souris invisible. Donc, on avait un pavé tactile dans la console. Ben, je pense qu'on a entendu...
Y a-t-il quelqu'un chez Lexus qui aurait finalement compris que c'était de la cochonnerie?
Donc, on a écouté la planète entière et on a retiré le pavé tactile. Cela dit, le système l'écran est désormais tactile, mais c'est pas plus simple. C'est pas moins complexe. Donc, pas dans la bonne direction, mais il y a encore...
Pas moyen qu'on prenne l'écran de Toyota puis qu'on le mette dedans.
Non, c'est ça. Donc, un pas dans la bonne direction, mais il va rester un peu de travail à faire. De ton côté, Antoine, Nissan Frontier 2022, un véhicule qui était très attendu aussi.
Bien, pour deux raisons. Premièrement, parce que ça faisait 17 ans qu'on ne l'avait pas renouvelé. Et écoute, je te raconte l'anecdote. Je l'ai écrit dans mon texte de cette semaine sur le site du Guide de l'Auto. Lorsque ma fille est née, je me suis déplacé à l'hôpital au volant d'un Nissan Frontier 2005 qui venait tout juste d'arriver sur le marché à l'automne 2004. Ma fille aura fait sa première balade en voiture à bord d'un Nissan Frontier qui venait d'arriver sur le marché. Ma fille fête cette semaine ses 17 ans et est en secondaire 5 et on renouvelle pour une première fois depuis le Nissan Frontier.
Mais tout est dans
le cycle. Le cycle de vie de ce camion-là est particulièrement long. Puis en même temps, de voir grandir ta fille, ça se fait si rapidement.
Mais là, j'espère que la prochaine génération, ce sera pas alors de la retraite de ta fille, là, quand même.
Là, de la retraite, moi, c'est ça. Ni au mariage.
Okay? Ah, OK.
on va attendre un petit peu. Cela étant dit, on a renouvelé un camion qui faisait longtemps qu'il était sur le qui n'avait pas été renouvelé. Il faut savoir que pendant 2 ans, Nissan Canada n'a pas offert de Nissan Frontier. Alors, 2020-2021, ça n'existait pas, bien qu'on a eu des camions disponibles jusqu'à la fin de l'été 2020, qui c'était des modèles 2019. Il y aura eu un trou d'un peu plus d'un an chez les concessionnaires sans camion. Et l'ironie, c'est que les Américains l'ont conservé. Eux ont eu droit à un Frontier 2020-2021 avec un nouveau moteur, un V6 3.8 litres, qui est celui qu'on retrouve dans cette nouvelle génération-là. Et parce que Nissan Canada n'avait pas cru bon l'homologuer et débourser pour commercialiser ce véhicule-là qui devait être chez nous que pour un an, on a décidé de laisser tomber.
À ce moment-là, on n'avait pas eu le flair de l'effervescence grandissante des camionnettes intermédiaires.
Ben, c'est pas juste ça. C'est que la camionnette qu'on nous présente et qui arrive chez les concessionnaires cette semaine, qui est arrivée depuis quelques semaines, en fait, devait arriver beaucoup plus tôt. Alors, dans la tête des stratèges de Nissan Canada, on n'aurait pas manqué de camions pendant un an.
Mm-hmm.
On a étiré la production des 2019 en se disant, peut-être qu'on va en manquer quelques mois, c'est tout. Et là, effectivement, ça valait pas la peine. Mais avec la pandémie qui est arrivée, les retards de production, les fermetures d'usines, tout ça, l'arrivée de la camionnette Frontier a été retardée, si bien qu'on a manqué de camionnettes pendant un an. Bon, Là, finalement, on l'a, le véhicule. Et ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. On l'a, il est disponible, il y en a dans les concessionnaires. Message à tous les acheteurs de Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Ford Ranger et Toyota Tacoma
qui ont des noms sur des listes d'attente. Là.
C'est ça. Ben, vous pouvez vous tourner vers Nissan qui ont un véhicule pour vous en ce moment. Est-ce que on va être capable de suffire à la demande? Moi, je pense que non, parce que c'est un camion franchement impressionnant. À mon avis, là, c'est pas compliqué, c'est le plus confortable de la... Bon, disons, on exclut le Honda Ridgeline qui est un peu classe à part avec un châssis monocoque, là. Mais si on compare avec, avec GM, avec Ford, avec Toyota, qui sont les trois grands rivaux, trois principaux rivaux, le Nissan est le plus confortable et celui qui offre une présentation intérieure la plus moderne avec un écran central tactile 9 pouces très moderne avec tout l'équipement qu'on veut avoir, c'est aussi celui qui a le moteur le plus intéressant. Ce nouveau V6 de 3,8 litres-là, qui va consommer, là, grosso modo, entre 11 et 12 litres au 100, jumelé à une boîte automatique à 9 rapports. C'est un moteur qui, oui, a 310 chevaux. C'est pas la puissance qui est impressionnante tant que le couple initial qu'on obtient. Tu effleures l'accélérateur, ça répond tout de suite. Alors que tous ceux qui ont un Toyota Tacoma le savent, il y a une espèce de creux au niveau du couple en accélération avec
un
Tacoma.
Et tu parlais de confort, là, dans le Tacoma. Non, le confort. Ça fait, ça en fait pas partie une seule seconde.
L'assise est trop basse, le dégagement à la tête, c'est limité. L'assise est trop courte aussi dans le Toyota. Ça brasse, c'est mal insonorisé. Tout ça, on l'a réglé chez Nissan. Un sacré beau camion, mais on a une gamme beaucoup plus simple que chez les Américains. Pas de version 2 roues motrices. Le 4 cylindres est disparu. Ça commence à 42 000 $ un Frontier au Canada avec transport préparation.
Le petit Frontier abordable qu'on avait avant, ça n'existe plus.
C'est terminé. Puis même aux États-Unis, ils ont des Frontier 2 roues motrices, King Cab de base, mais ce sont des véhicules qui, là-bas, ont un certain succès. Chez nous, les versions à moteur 4 cylindres, dans les dernières années, c'était 7-8% des ventes au maximum. Alors, Nissan Canada a décidé, on élimine ça, on s'en va uniquement avec des versions 4x4, King Cab ou Crew Cab. Et dans la version Crew Cab, vous avez le choix de deux caisses, 5 ou 6 pieds. Évidemment, la caisse de 5 pieds, ça sera sur le modèle Pro 4X, qui est celui qui est conçu pour leur route. Pour moi, c'est un camion très, très bien réussi. Il n'y a pas de gros défauts, ça va se vendre énormément. Et Nissan a le momentum. Si on est capable de fournir, on va en vendre pas un peu. Je pense qu'on va fracasser des records avec ce camion-là parce que, contrairement à d'autres produits chez Nissan, on réussit à se démarquer avec ça.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
On a choisi de parler avec aujourd'hui avec David Giguère, qui est vice-président en marketing du groupe Touchette, pour qu'on éclaircisse un peu des questions. Parce qu'il y a un vent de panique actuellement. Là. On voit ça passer dans les médias, incluant les nôtres. Là. Dépêchez-vous, c'est une urgence, faites ça vite.
Puis le son de cloche varie là, au sein de l'industrie aussi. Là.
Ben c'est ça. Fait que je pense qu'il y avait une mise à niveau à faire à ce niveau-là. Alors, David, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour messieurs.
Est-ce que ça roule?
Oui, voilà. Ouais, okay. C'est chapeau de roue.
C'est ça. Voilà, très bien dit. Très bien dit. Est-ce que tu es en mesure, en introduction, on parlait là d'un semblant de pénurie ou on a des échos d'une pénurie en ce moment. Est-ce que tu es en mesure de nous dire si il y a bel et bien pénurie et comment ça se passe dans le marché du pneu?
Bon, la réponse est oui, mais il y a des problèmes. On a eu des problèmes partout dans l'industrie d'approvisionnement. Mais malgré tout, je dirais que dans l'ensemble, en tout cas, je parle pour notre entreprise, dans l'ensemble, on a été capable de s'approvisionner à pas mal 100% de ce qu'on voulait. Sauf que il y a certains types de produits, certaines marques, certaines grandeurs qui sont plus difficiles et qui risquent de ne pas passer l'hiver, si vous me passez l'expression.
Et qu'est-ce qui est difficile à obtenir en ce moment comme type de pneu?
D'abord, les statistiques le montrent, j'en disais une il n'y a pas si longtemps, là, que les produits pour les pick-up, entre autres, tout ce qui est plus gros là, un petit peu, là, les light truck qu'on appelle, ça va être un petit peu plus difficile et on risque de passer à travers plus rapidement. SUV, un petit peu moins, mais encore, les SUV aussi risquent d'être un petit peu plus compliqués. Et après ça, pour les pneus de voitures plus régulières, là, 16, 17, 18 pouces, là, on a un petit peu moins de problèmes. Ça veut pas dire, je répète, on risque, nous, je l'ai déjà expliqué, on risque d'avoir pas mal tout ce qu'on nos clients vont vouloir, sauf que ça se peut que ce soit pas la marque que tu voulais.
Ouais, je comprends.
Ce que le client veut, ça peut changer. Mais ça demeure pas moins que si vous me demandez, David, on recommande-tu aux gens de prendre leur temps? Moi, je dis non. Parce que, d'abord, parce que vous le savez, il y a une pénurie de main-d'œuvre, ce qui fait que les garages sont surchargés et que si vous attendez trop, vous allez vous retrouver au mois de tard en décembre, passer la loi, d'abord. Et que plus vous allez y aller tôt, plus vous allez avoir le pneu que vous voulez. Alors, ça, c'est le premier. Ça, c'est sûr que c'est un réflexe que j'aurais.
Mais dans un monde où il se vend presque pas de pick-up parce que ben, eux aussi sont en grande pénurie, comment on peut expliquer qu'on puisse manquer de pneus qui leur seraient adressés?
Ben, c'est toute une question de capacité de production. Alors, les usines, les manufacturiers de pneus, là, le pneu d'hiver représente grosso modo seulement 1% de la production de pneus de tous les manufacturiers mis ensemble. 1%. Et ils le font une fois par année. Ils changent ils transforment leurs usines pour faire des pneus d'hiver pendant un certain temps. Et après ça, ils recommencent à faire des pneus toute saison ou d'été. Donc, quand ils ont le temps de faire ça, quand eux-mêmes ont été touchés par la COVID, eux-mêmes ont été touchés par différents problèmes de matière première, etc., ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils regardent sur le volume. Le volume, il est où? Ben, ça reste encore qu'il y a quand même plus de pneus en unité, hein, de petite dimension que des pneus light truck ou de camionnette ou que des pneus de plus grande dimension. Alors, il y a des choix qui ont été faits comme ça. On a des problèmes aussi sur les pneus de trailer, les pneus de remorque.
Okay.
Pourquoi? Ben, parce qu'il y en a encore moins. Alors, il y a des usines. Goodyear, à un moment donné, a dit, ben, là, on va faire nos pneus d'hiver, on fera pas les pneus de remorque cette fois-ci, on les commencera au printemps. Donc, il y a des choix d'entreprise comme ça et qui fait en sorte que, nous, on a commandé très, très tôt. Donc, on a pu faire passer des commandes pour que les usines les fassent. Mais c'est des choix de production.
Bien, c'est un peu le terrain où je voulais aller. C'est-à-dire que j'ai parlé avec 4 ou 5 commerçants de pneus et vendeurs de pneus cette semaine. Et la majorité m'ont dit ceci. Si tu es un bon gestionnaire, que tu as commandé tes pneus d'avance, que tu as su anticiper un peu ce qui s'en venait, tu vas être correct au niveau des stocks. Puis ce qu'ils m'ont dit en majorité aussi, c'est effectivement, ça se peut qu'il y ait un trou dans une marque. Ça se peut qu'il y ait des vides à gauche, à droite. Mais ta grandeur de pneus, on va l'avoir. Et moi, j'ai posé la question, cette question-là, à plusieurs personnes, en partant du principe que j'ai une dame qui m'avait écrit un mot en me disant « Je me suis acheté un Mazda CX-9 flambant neuf chez un concessionnaire. J'ai voulu avoir des pneus d'hiver pour ce véhicule-là. Le concessionnaire m'a dit que le format de pneus d'hiver pour mon CX-9 n'existait plus. Alors, on m'a vendu un jeu de roues additionnel plus petit d'un pouce pour être capable de me vendre des pneus d'hiver aussi. » Et là, j'ai trouvé ça poussé un peu comme stratégie. Pas que je déconseille l'achat de roues d'hiver, parce que je pense que c'est très logique d'avoir deux jeux de pneus et de roues. Ça, c'est moi personnellement. Mais est-ce qu'on en est rendu là à dire « OK, il n'y a plus de taille dans ce format-là, on est obligé d'aller dans une autre taille de pneus et de compenser. » Moi, je pense pas, là.
Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est poussé un peu. Je connais pas le cas, là, mais je... Non, pas là. Mais la saison commence. Il y a peut-être des gens aussi qui ont des pneus de l'année passée, ou je sais pas, là, qui veulent passer aussi. Je ne connais pas la situation.
C'est ça.
Non, je serais très surpris, là. Je serais très surpris.
Qui dit pénurie ou ombrage d'une pénurie, et là, on l'a vu dans divers domaines, ça veut dire souvent une hausse des prix. Pour le consommateur moyen, qui a un VUS moyen, disons...
Un RAV4.
Oui, c'est ça. Donc, allons pas dans des exceptions, là. Allons dans la grande normalité. On peut s'attendre est-ce que oui, on doit s'attendre à une hausse des prix? Puis si oui, de quel ordre?
Oui, absolument, la hausse des prix. Puis c'est là qu'on voit que l'économie mondiale est vraiment, on n'est pas sur une île déserte. Hein. Tout ce qui se passe partout, ça a des répercussions. Alors, oui, il y a des problèmes de matières premières, il y a eu des problèmes de logistique, il y a eu des problèmes de containers, il n'y en avait pas assez, les containers étaient tous rendus en Amérique, alors que les autres, il fallait qu'ils shippent leurs produits en Chine. Alors là, il a fallu qu'ils trouvent un paquet d'affaires, ça a coûté plus cher. Tout le monde, tout a augmenté. Alors, tout ça pour dire que les manufacturiers sont pas plus fous que les autres et ils doivent vivre aussi, ils doivent rendre les comptes. Alors, les prix ont augmenté, ça varie, mais en général, plus de 10 %, ça peut aller jusqu'à 20 % et même plus, nous, de ce qu'on a vu en distribution. Alors, évidemment, puis le prix descend au marché. Alors, on peut imaginer, effectivement, 10, 15, 20 % de plus selon les cas. Est-ce qu'il y aura des guerres de prix? Moi, je pense pas. Vous savez, hein, que là, juste engager du monde, ça coûte plus cher. Là. Les assurances coûtent plus cher. Le gaz coûte plus cher. Vous l'avez vu, le prix de l'essence. Alors, à un moment donné, tout se paye. Alors, oui, les pneus vont augmenter. Et ça va être, comme on dit en anglais, double digit. Ça, c'est sûr, c'est ça.
On discutait un petit peu plus tôt cette semaine de la question des pneus chinois parce que il y a des gens qui sont aussi sous cette impression que les pneus ont augmenté de façon drastique. Tu me parles de 10, 12, 15 % il y en a qui ont l'impression que ça a doublé le prix d'un pneu. Est-ce que c'est parce qu'un pneu d'entrée de gamme est soudainement plus difficilement accessible ou est-ce que ce genre de pneus-là a augmenté plus que les autres?
Oui, en fait, la réponse est un peu oui à tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, alors les pneus d'entrée de gamme sont parfois, je ne sais pas, 50-60 piastres. Quand tu vas chercher une augmentation de 15-20 % 25 %, ça peut arriver. Donc, c'est puis là, partout, là, ça descend dans la chaîne. Alors, c'est sûr que le 60 piastres va monter à, justement, 70, 75, 80 piastres. Et tout d'un coup, ben, ton produit d'entrée de gamme, d'abord, il est plus tout aussi attrayant qu'avant. Tu dis, OK, avant, 60 piastres, ça valait la peine. Mais là, ça commence à coûter cher. Tant qu'à payer cher, je peux-tu regarder le niveau d'au-dessus, premièrement.
Ouais, OK.
Deuxièmement, fait que ça, il y a ça. Ça a remonté partout dans la chaîne. Mais attention, les produits qui ont été faits outre-Pacifique, c'est là que ça a fait le plus mal. Parce que nous, entre autres, les manufacturiers avec qui on fait affaire, et la plupart du temps, ce sont les grandes marques qui font des produits de grande qualité, de haute qualité.
Ouais.
Bridgestone Continental, Michelin, bien entendu, Goodyear, tous ces produits-là sont fabriqués soit en Amérique, soit en Europe. Ou en Europe de l'Est, etc. Ça, tout, nous, on l'a vu, là, ça rentre, il n'y a aucun problème. C'est tout ce qui est outre-Pacifique. Il y en a des produits là, qui ont été faits outre-Pacifique, on n'a pas eu de problème. Les produits Yokohama sont tous arrivés, pourtant, ça vient d'outre-Pacifique. Alors, il y a une question d'organisation là-dedans, mais beaucoup de produits d'entrée de gamme sont des produits qui ont été fabriqués outre-Pacifique, et donc, eux, ont été soumis à des frais gigantesques, à des retards gigantesques. Il n'y a plus de bateaux, plus de containers. Tout coûte plus cher. Et il y en a, nous, qui des fournisseurs qui nous ont envoyé des pneus, vu qu'ils ne trouvaient pas de containers, ils ont loué des bateaux à grains, ils ont mis des pneus dans des grosses, grosses bâches, puis ils ont fermé les bâches, puis ils nous ont envoyé ça de même. Vous aurez dû voir l'état
dans wow.
Lequel ils après, par contre, là. Mais parce qu'eux autres, ils préféraient...
C'est devenu des pneus à clous automatiquement.
Non, mais c'était quelque chose. Les gens cherchaient vraiment des solutions.
Mais ça a fonctionné, cette technique, ou le résultat était moyen?
Ben, le résultat était moyen. C'est-à-dire que ça a fonctionné sur le délai, parce qu'on les a reçus à temps. C'est bravo. Mais quand on a ouvert ça, des fois, il y a de l'eau qui avait rentré, les pneus pleins d'eau, c'était tout croche. Alors, ça n'a pas été le résultat. Tu sais, quand c'est dans un container, au moins, ils sont là, tu l'ouvres, puis il y a 3-4 heures, mais en dehors de ça, les pneus sont là, bien comme faut. Tandis que dans des bâches refermées, dans le bateau, aux intempéries, puis tout ça, ça a été un petit peu plus compliqué. On ne recommandera pas de recommencer ça l'année prochaine, non.
Évidemment, mais, évidemment, donc, oui.
Ben non, la réponse, donc, c'est que bas de gamme veut dire souvent fait loin et donc beaucoup plus de frais. Alors, il y en a, ça peut monter jusqu'à 35 %. 35 %, ça commence à...
Oh là là!
Alors, ben oui.
Je veux approfondir un peu le dossier, si je peux m'exprimer ainsi, du pneu chinois, parce que le pneu chinois est péjoratif par son appellation, mais il y a toutes sortes de qualités de pneus chinois. Les Chinois vont fabriquer ce que tu veux, là, essentiellement. Alors, tu peux acheter
Alors, si tu veux un prix, ben ils vont t'en faire un, mais si tu veux de la qualité, ils sont capables d'en faire aussi.
Exactement. Alors, elle se trace où, la ligne, entre tous ces pneus de marque qu'on n'a jamais vu de notre vie, qu'on vend à prix dérisoire et qui sont, à mon avis, pas vraiment pertinent sur le marché, à part pour un gars qui achète une voiture pour la revendre ou pour envoyer à l'encan ou des compagnies de location qui vont mettre des pneus les moins chers en ville pour être légal. Je peux comprendre qu'il y a un besoin à ce niveau-là, mais la ligne entre un pneu comme celui-là et un pneu toujours fabriqué en Asie, mais qui est de meilleure qualité, y a-t-il un si grand écart de prix que ça?
Évidemment, donc, la ligne n'est pas facile à tracer d'abord, là, parce que quand tu connais pas le nom du pneu, déjà là, tu peux poser des questions, puis aussi, il faut s'informer. Consumer Reports, il y a le Protégez-vous, il y a plein de tests de pneus, on les connaît d'abord en partant. Mais généralement, là, si vous prenez là, les noms que vous connaissez, les pneus les meilleurs sur le marché, les Michelin, les Bridgestone, les Goodyear, les Continental, ces marques-là, ça, c'est des marques, ils ont investi des millions là-dedans, des centaines de millions dans la recherche, dans le développement, et c'est toujours les hauts de gamme. On appelle ça des tiers 1. Partant de là, après ça, il y a toujours à peu près 10, 15, 20% de prix pour aller à l'autre niveau en dessous, parce que vous allez voir, là, les garagistes le disent, t'as ce prix-là à 200$, t'as ce produit-là à 200$, puis l'autre en dessous, ah, lui, il est à 160, ben, il est 40$, donc, etc. Et habituellement, c'est toujours des tranches de 10, 15, 20% pour arriver plus bas. Donc, écoutez, moi, je l'ai dit plusieurs fois, là, des pneus d'hiver qui coûte en bas de 100$, là, puis que le gars, il dit, c'est des pneus, ça fait la même chose, là. Moi, je me suis déjà fait dire ça, moi, avec ça va être dans le domaine. C'est pareil, c'est la même chose. Faites pas ça, parce que si vous, c'est pas la même chose. Si effectivement, si tu veux revendre ta voiture, tu la garderas pas longtemps. Il y a plein de raisons de faire ça, là, de garder les pneus de bas de gamme ou d'entrée de gamme. Mais habituellement, là, il y a un pneu, il faut que tu ailles chercher une marque. Puis les marques, c'est pas juste du marketing. Les marques, c'est parce qu'il y a eu de l'argent mis derrière. T'sais.
Puis on peut s'imaginer que le rendement quand le pneu est neuf n'est pas nécessairement optimal, mais on peut s'imaginer aussi que la durabilité ne sera pas au rendez-vous. Et c'est là le plus grand enjeu, là.
Absolument, la durabilité. Je veux dire, moi, alors, nous, on a travaillé spécifiquement, là, j'en avais parlé la dernière fois, sur un produit exclusif à notre entreprise, la Goutte Touchette, le Ice Contact Extreme XPRM de Continental. Moi, j'ai assisté au développement de A à Z de ce produit-là. Mais je peux vous dire que le temps qui a été mis, l'argent qui a été mis, mais quand tu fais moins 40, le pneu, tu peux encore sentir qu'il n'est pas gelé dur. Il est grippe encore. Vous essayerez ça avec des pneus à 60$.
Ouais, ça devient des pocs de hockey, là. Voilà. C'est ça.
Voilà. Des pocs de hockey. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Alors, mais c'est parce qu'il y a de l'argent, il y a de la recherche, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis. Et dans d'autres, dans les entrées de gamme, ben, c'est du volume. On fait du volume. Puis il y a toujours une crowd, une population qui serait intéressée par ça. Mais moi, je vous le dis, là, au Canada en particulier, c'est comme, faut vraiment des conditions spéciales, là. Mais, pensons à mettre des pneus qui ont de l'allure, là.
Ben, ça m'amène aussi à parler du pneu tout climat. On en avait parlé, toi et moi, l'an passé, parce qu'on avait, il y a une espèce de fléau de ces entreprises qui mettent des faux pictogrammes sur les flancs des pneus pour te faire croire que ce sont des pneus d'hiver alors que ça n'en sont pas.
Avec un contrôle aléatoire, ouais, c'est disons ça comme ça.
Ça, faut se méfier de ça, bien sûr, mais les pneus tout climat, ça, ce sont des pneus qui sont techniquement homologués pour l'hiver, mais qui font pas vraiment le boulot. Là. Explique-nous donc un peu qu'est-ce que c'est et pourquoi ça existe un pneu tout climat. Est-ce que c'est mieux d'abord qu'un pneu toute saison et où la nuance?
Alors, d'abord, premièrement, tantôt, tu as dit le faux pictogramme. Il est malheureusement bien vrai, le pictogramme. Hein? Quand ils mettent un pictogramme, c'est parce que c'est supposé respecter des normes. Le problème, c'est que c'est des normes qui datent d'il y a 30 ans. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Antoine.
Oui, oui. Puis des normes qu'un fonctionnaire à Ottawa ne met pas en application. Là.
Ben non, c'est ça. Alors, et c'est drôle que tu me poses la question. J'ai contacté, moi, les gens chez Consumer Reports, que je suis attentivement aux États-Unis, que vous connaissez évidemment très bien. Je leur ai parlé du tout climat, le all weather, comme on dit en anglais. Ouais. Et justement, la dame me répondait en expliquant un petit peu que pour eux, ils sont aux États-Unis, les autres, là, mais que le all weather, c'est pour des conditions hivernales légères. Alors, un peu slush, un tout petit peu de neige, quelques degrés en bas de zéro, pas plus que ça. Ça
c'est quand tu habites à New York, là.
Quand tu habites à New York, quand tu habites à New York, mais quand tu sors de New York et tu t'en vas justement dans l'upstate, là, c'est plus bon. Alors, ces pneus-là sont pris naissance, donc il y avait, quand j'étais plus jeune, moi, il y avait les quatre saisons, hein, on disait dans le temps, c'est trop pour l'été, pas assez pour l'hiver, mais c'était vraiment pas assez pour l'hiver. c'est mort. Et ils sont revenus donc avec cette auto-regulated, cette façon de s'auto-réguler en disant on va mettre un pictogramme en disant c'est bon pour l'hiver. Il y a différents pneus sur le marché là, que vous allez voir. Ils ont le pictogramme. Ce sont des pneus qui vont faire l'affaire pour certaines régions au Canada, mais même au Québec. Hein, on peut considérer que c'est un pneu d'hiver. Regardez, monsieur le policier, il y a le pictogramme. Sauf que pour la santé, pour la sécurité plutôt des individus, des voitures, ce n'est pas fait pour des conditions hivernales rudes, comme on peut avoir à Edmonton, par exemple. À Vancouver, je dis pas, peut-être. Dans le sud de l'Ontario, je dis pas. Mais dans les conditions régulières d'hiver, ce n'est pas recommandé. Par contre...
Est-ce que c'est un pneu qu'on peut garder toute l'année durant et qui est efficace l'été aussi?
Oui.
Okay.
Absolument, qui va être efficace l'été aussi. Il y a beaucoup de propriétaires, on parlait tantôt de camionnettes, les pick-up, qui vont s'en servir parce que ils n'ont pas besoin de changer les pneus deux fois par année, puis ça fait leur affaire, puis un pick-up c'est plus lourd, ça dépend de ce qu'ils font aussi. C'est pas idéal. Nous, on en vend beaucoup du tout climat dans l'Ouest, par exemple. Nos ventes, le tout climat a la faveur. Hein. Ça fait 3 ans à peu près là, qu'on est à 20, 30, 40 % d'augmentation chaque année.
On
se demande où ça va arrêter. Mais pour Québec, bien entendu, parce qu'au Québec, les gens sont très conscientisés, je pense.
Parce que c'est la loi, là.
Oui, il y a ça aussi.
En plus. Exact. La loi, effectivement, mais aussi le fait, c'est tout climat, il y a le petit pictogramme. Tu pourrais dire, moi j'en mets, vous allez voir là, dans la rue, il y en a des pneus d'hiver qu'il y a le petit pictogramme, mais ça ne ressemble pas à des pneus d'hiver.
C'est
des gens qui ont décidé d'aller aux joueurs ou lettres, tu sais. Mais donc, Toronto, tout climat, ça pourrait très bien faire l'affaire aussi. Ils n'ont quasiment pas de neige. Sauf que quand il y a de la neige, les autres, c'est eux autres qui s'en vont dans le fossé.
Oui. Je veux dernier point qu'il faut discuter en terminant. Évidemment, tu parlais tantôt de manque de main-d'œuvre. On va s'attendre évidemment à ce que la prise de rendez-vous puis faire changer ces pneus d'hiver cette année, ça risque d'être compliqué. À quel point on est dans ce moule avec ça?
C'est gigantesque. Je le croyais pas. On l'avait entendu parler l'année passée, ça avait commencé. Et cette année, c'est pire que pire. Tout le monde, vous le voyez peut-être, tout le monde cherche. Le chômage, j'ai pas vu les chiffres de chômage, là, mais ça doit être rendu à sa plus petite expression. Et nous, qui avons des besoins saisonniers, alors nous, on cherche à partir d'octobre jusqu'en décembre, on a besoin de monde. Après ça, on a besoin de monde de mars à mai. Beaucoup pour des postes temporaires et postes temps plein, et c'est extrêmement difficile, particulièrement au Québec, plus que dans les autres provinces. On a des entrepôts, nous, on a une trentaine d'entrepôts à travers le pays, mais au Québec, c'est très difficile, et avec nos propres garages aussi, on a maintenant près d'une dizaine de garages nous-mêmes, groupe Touchette, et c'est difficile. Ça coûte plus cher, ils appellent ça des ghost candidates, là, les gens qui postulent et qui se présentent pas à l'entrevue. Tant pis, ils s'en vont. Ou des gens qui postulent, qui sont engagés, qui se présentent une journée, qui s'en vont. C'est extrêmement difficile. Il a fallu que nous, qu'on déploie l'armée, les armes lourdes, là, on va être sur la radio, on va voir les différents panneaux, on va être sur Internet, sur les médias sociaux, et on va même donner, on a même développé un programme de référencement, un finder's fee, et on dit aux gens, si vous nous recommandez quelqu'un pour un poste temps plein, chez Groupe Touchette, que la personne est embauchée puis qu'elle passe sa probation, on vous donne 2 000 $. Si vous nous en recommandez deux, on vous donne 4 000 $.
Hey, Germain, tu cherchais pas un job?
J'allais vous recommander Antoine, moi. Il est bien, bien bon pour poser des pneus. Il va poser les miens aussi. Il sait pas encore, là, mais...
Non.
Quelque chose. Puis, mais moi, j'allais cogner là, au port de mes voisins. J'avais dit, ça vous tente tout de faire 2 000? Parce que si, même pour un emploi temporaire, là, d'octobre à décembre, on va donner 1 000 $. Fait que quelqu'un, un père qui a plusieurs enfants là, qui ont 17, 18, let's go, on va vous donner 1 000 $ à chaque fois. Si la personne reste avec nous, puis aucun problème. Il faut sortir des sentiers battus.
Parce que de toute façon, ce 1 000 $-là ou ce 2 000 $-là, de par la capacité à en installer davantage, vous allez aller le récupérer facilement. Ben, là.
Sinon, c'est une perte pure. Nous, là, on a des pneus, là, on en a plein de pneus. Alors, il faut les installer, il faut les livrer. Dans le cas de la distribution, il faut qu'on les livre. Et c'est ça notre pain, notre beurre. Nous, il faut qu'on soit capable de tout faire ça. Donc, c'est notre priorité absolue. Ça fonctionne bien. Je vous dirais là, que depuis les dernières semaines, ça commence à rentrer. Mais on ne lâchera pas parce que tout le monde, hein, c'est pas juste nous. Là. Tout le monde. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais aux gens, M'attendez pas là. Allez mettre vos pneus, allez, si vous avez des pneus à changer, à acheter, allez-y tout de suite, parce que n'attendez pas.
Puis, on peut-tu dire aussi, respectez donc le rendez-vous que vous avez pris? Parce que ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être prendre 3, 4, 5 rendez-vous pour
juste
pas prendre
pour
de
être sûr d'en avoir un.
Ils vont se présenter à un de ceux-là.
Mais ça va engorger le système pour rien, là.
Ouais.
Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Puis les restaurateurs, étonnamment, le disent également. C'est terrible. Ça, c'est... Puis en plus, là, ce qui va arriver, c'est que la personne va se retrouver au mois de décembre. Là. Puis c'est pas bon. Il faut se tenir ensemble dans cette situation-là.
Mais là, si on se fie à ce qu'on voit cette semaine au niveau de la météo, il neigera pas avant le mois de février. Fait qu'on devrait être
pas pire. Oui, c'est ça.
Les gars, sautez-moi pas ça. Mais j'ai entendu dire cette semaine qu'ils annonçaient la semaine prochaine de la neige à Edmonton. Ça commence toujours par là. Alors, nous, quand ça commence là, en octobre, neige à Edmonton, ça s'en vient tranquillement, on se croise les doigts.
Bon. Est-ce que c'est Colette qui l'a dit? Si Colette l'a dit, c'est que c'est vrai.
non, c'est pas Colette. Non, c'est pas Colette.
Merci beaucoup, David, d'avoir pris le temps de nous parler. On vous souhaite une bonne... on veut pas dire un bon début de saison, parce que vous êtes déjà dedans, là, ça, c'est clair. Mais on espère que vous allez réussir à passer à travers cet hiver sans trop de complications, puis que vous allez trouver du staff.
Merci
beaucoup.
Avis
à tous, 2 000 $. 2 000 $.
Et moi, j'ai très hâte de voir Antoine poser les pneus d'hiver.
Moi, je suis meilleur pour poser des questions.
Je vous fais un petit plug. S'il y en a qui veulent d'informations, vous avez juste à texter OK au numéro 581-333-1212. 581-333-1212. Vous textez OK, on vous envoie toute l'information. Merci, messieurs.
Merci
David.
Beaucoup. Bye-bye.
Au revoir.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, terminons avec quelques questions du public. On a Yves qui nous dit qu'alors qu'il visitait un client, il a aperçu une vieille voiture abandonnée sur des blocs dans le garage. C'était une Buick GSX des années 70, nous dit-il. Elle était bleue et son intérieur était blanc, mais sur la valise, il y avait les lettres Pontiac. Est-ce que tu peux l'éclairer? Et est-ce que cette voiture vaut la peine d'être restaurée?
Ben, un Buick GSX, c'est essentiellement la même chose qu'une Chevelle, qu'une GTO ou une Pontiac Le Mans. Alors, je ne peux qu'imaginer qu'on a pris une Buick GSX et qu'on a remplacé son coffre par celui d'un coffre de Pontiac Le Mans ou de Pontiac GTO. Ce pourquoi vous aviez le lettrage Pontiac, parce que les panneaux de carrosserie étaient les mêmes. C'est les pare-chocs, la calandre, quelques petits trucs qui changeaient, mais sinon, c'était essentiellement la même voiture. Maintenant, est-ce que cette voiture-là vaut la peine d'être reconstruite? Je ne l'ai évidemment pas vu. S'il ne reste que le firewall comme pièce à peu près potable...
Bon, et les enregistrements.
Et les enregistrements, peut-être pas. Mais si la voiture a un bon potentiel, c'est sûr que oui. C'est des voitures qui prennent énormément de valeur, pour laquelle il y a beaucoup d'engouement. Et la Buick GSX, c'est une voiture quand même assez rare. Les gens ont ironiquement beaucoup gardé des Chevrolet et des Pontiac. Mais Buick, il n'y en a que très peu. Et des GSX, ça peut être une voiture assez recherchée.
On a Alex qui nous dit avoir besoin d'une camionnette 4x4 pour aller dans le bois, les chemins de gravel, le sable, la boue, la neige, etc. Bref, tu as compris le principe. Est-ce que le Chevrolet Colorado ZR2 est un bon choix et qu'en est-il de sa fiabilité?
Ben oui, le Colorado, c'est un camion quand même assez extrême là, en version ZR2. C'est-à-dire que on peut qualifier ce camion-là de celui qui a la suspension pour conduite en route la plus évoluée, la plus performante qu'on retrouve. Suspension avec amortisseur magnétique réglable. C'est vraiment avec un super débattement. C'est pas le camion le plus confortable, évidemment. Là, c'est un camion quand même assez extrême. Donc, faut aimer la conduite en route. Faut en faire beaucoup. Mais c'est un camion ultra solide. Par contre, bonne chance pour en trouver un.
Oui, voilà.
Il n'y a pas de Colorado ZR2 chez les concessionnaires en ce moment. Il y a pénurie chez GM, vous le savez. Les concessionnaires ferment leurs portes actuellement. On envoie au chômage les vendeurs. Il n'y a que le directeur des ventes qui est là. C'est une situation très, très, très critique chez Chevrolet. Et malheureusement, ben, l'équivalent du ZR2, ça serait le Toyota Tacoma TRD Pro, mais encore là, même problème.
C'est ça, c'est pas plus facile à trouver.
Moi, personnellement, à choisir, je choisirais le Colorado avant le Tacoma. Moi, le Tacoma, je trouve ça trop inconfortable, trop mal adapté à la route. Alors, quand vous faites du hors-route, c'est un camion solide. Puis encore là, je préfère le moteur V6 du du Colorado ZR2 versus celui du Toyota. Je sais que Toyota a une réputation de fiabilité en or, et oui, je donnerais l'avantage à Toyota pour ça, mais le Colorado, en même temps, c'est pas un citron, là, c'est quand même un camion.
Non, c'est pas vilain.
C'est quand même un camion qui se défend bien. Et si vous n'êtes pas capable de mettre la main sur ni un ni l'autre, Ford a lancé un Ranger Tremor. Je toucherais personnellement pas à ça. Je pense qu'il y a mieux dans le marché.
Sinon, on parlait un peu plus tôt du Nissan Frontier dans une version Pro Catec. C'est sûr que c'est pas aussi radical qu'un Colorado ZR2.
Non, mais, non, absolument pas.
Mais s'il est disponible, c'est quand même un atout intéressant.
C'est ça. C'est que le Nissan Frontier Pro Catec serait l'équivalent d'un Colorado Z71 ou d'un Tacoma TRD ou TRD Sport, mais pas un TRD Pro. Et c'est un camion qui est quand même capable de se défendre très bien. Il y a des plaques de soubassement, une suspension Bilstein, il y a des pneus plus gros. Il y a des ancrages sur ce véhicule-là. Il est conçu pour ça, mais c'est certainement pas aussi extrême que le Colorado ZR2 qui, à mon avis, n'a pas été égalé encore là, en termes de performance en route.
Merci beaucoup, Antoine. Et on écoute en fin de semaine le deuxième épisode du Chevrolet HHR Panel à rouler au suivant.
Vous allez le voir TVA finalement terminé. Oui. Il y a une sacrée belle gueule, honnêtement.
Ouais. Très hâte de voir ça.
Je peux te dire que c'est un véhicule qui m'a marqué, moi, dans la série. Et vous allez comprendre pourquoi.
Cube Radio.